Parole d'auteur. Parole d'auteur, Philippe Gilbert.
Ne travaillez jamais, travaillez moins pour lire plus. C'est bien à vous qu'elle s'adresse. À vous tous les amoureux du dimanche, à vous tous les paresseux, venez rejoindre son mouvement contre les apologistes du travail des autres. Si comme elle, vous êtes convaincu que c'est le travail qui prématurément vous fane et que la paresse est un art subtil, si à la question « Que faites-vous dans la vie ?» vous répondez mille choses dont certaines d'une inutilité totale, alors venez rejoindre son action de récalcitrance devant la surbonination. Elle, c'est Lydie Salver qui nous offre un pamphlet jubilatoire sur le travail, la paresse, la colère, la révolte, la liberté, intitulé « Depuis toujours, nous aimons les dimanches » à l'adresse des apologistes du travail des autres. C'est paru cette année au Seuil. Bonjour Lydie Salver.
Bonjour.
Merci de nous accueillir chez vous.
Merci à vous.
À Nîmes. Je signale aux auditeurs que nous avons effectivement la chance d'être reçus par Lydie Salver à Nîmes, dans sa maison du centre-ville. Lydie Salver, je voudrais savoir si cette maison, ce lieu où la ville de Nîmes, la région du Gard, est un lieu privilégié d'inspiration pour vous lorsque vous écrivez.
Je m'en tiendrai à ma chambre. Que je quitte peu d'ailleurs, je suis une sédentaire passionnée et si je pouvais décider de ma vie, je la passerais enfermée à lire et à écrire. Ça a l'air un peu exagéré, mais c'est vrai que je passe mes journées à lire ou à écrire. Ça me tient debout, ça me tient vivante. Je crois que je suis monomaniaque. C'est ma passion, c'est ou mon vice, comme on voudra. Et je le fais sans mesure. Je ne peux pas être modérée. Je ne lis pas, par exemple, modérément. Si je lis, je suis sauvage. Je veux tout lire, et vite. Et pour écrire, c'est pareil. Je suis à l'écriture, pas tout le temps, mais presque.
Donc, vous n'avez pas besoin vraiment d'un lieu particulier.
C'est ma chambre, c'est mon lit. Je travaille au lit. Le lieu de la volupté, le lieu de la paresse d'ailleurs, le lieu du confort, le lieu des oreillers, etc. J'ai pris l'habitude de lire et de travailler au lit, l'ordinateur posé sur mes genoux. Et je passe donc ma journée au lit, voilà, à travailler.
Voilà, donc nous savons comment naissent les livres et où ils naissent chez vous. Je salue donc nos auditeurs en leur rappelant qu'ils peuvent réagir à cette émission sur notre site et la retrouver en podcast sur toutes les grandes plateformes numériques. Lydie Salver, j'ai lu quelque part, je ne sais pas si c'est exact, que vous êtes timide.
Oui.
Alors, comment fait-on quand on est timide et que l'on donne des interviews et que l'on a... par nature, beaucoup de contacts.
Oui. Alors, peut-être quelques mots sur ma timidité. Comme vous le savez, je suis née de parents réfugiés politiques espagnols qui arrivent en France en 1939 et qui vont parler une langue bricolée, pleine d'incorrections, de barbarie, de solécisme, de fautes en tout genre. Et il se trouve qu'à l'école, je vais reproduire enfant les fautes que font mes parents. Si bien que petit à petit, après deux ou trois hontes dont j'ai encore le souvenir, je ne lève plus le doigt et je reste bouche cousue. Voilà, j'ai grandi avec cette difficulté à parler qui naît dans l'enfance, que je réparerai par le bonheur de la lecture plus tard. Alors vous me demandez comment ça se passe en entretien. Il faut que je surmonte... cette difficulté à parler, il faut que j'essaie de la surmonter. Mais par exemple, je me trouve toujours très décevante à la télévision parce que ça me... toute cette crainte à dire des choses oralement de l'enfance revient. Et je mourrai avec, je crois.
Et est-ce que vous analysez cette difficulté à parler dans le fait que vous avez en revanche, une belle propension à écrire.
Ben, j'écris parce que je ne sais pas parler. Je suis convaincue de cette chose. Je me suis mise à écrire parce qu'il me fallait un lieu pour m'exprimer sans doute et une nécessité. Et je suis sûre de ça. J'écris parce que je ne sais pas parler.
Donc, vous utilisez finalement cette faiblesse,
oui.
Et vous en avez fait une force. Et je voulais vous demander, en rapport avec la littérature et l'amour des livres, est-ce que vous pouvez nous préciser votre lieu de naissance, mais pas votre lieu géographique de naissance, un lieu spirituel, un lieu symbolique.
Ben ça peut paraître comme une coquetterie littéraire, mais je peux dire que je suis née dans les livres, vraiment, que les livres m'ont en quelque sorte enfantée, vraiment. En tout cas, ils ont été, ils m'ont ouvert une espèce de porte de secours pour m'exprimer. Les livres, ils ont été ma passion, mon vice, ma musique, au point qu'ils remplacent, je le dis par parenthèse, les livres remplacent pour moi la musique. La musique, je la trouve dans les livres. Mais vraiment, j'écoute très peu de musique, ce qui désole mon compagnon. La musique des livres me suffit. Alors si je tombe sur un livre qui n'a pas de langue, qui n'a pas de musique, qui n'a pas un souffle, une prosodie, je ne peux pas le lire. Et quand j'écris, je suis toujours à parfaire la musique de ce que je vais dire. Vraiment, vraiment.
Alors en termes de rythme et de musique, on peut dire que le livre « Depuis toujours, nous aimons les dimanches » est quand même un modèle du genre. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Mais on sent bien que vous avez travaillé la musique.
Oui, vraiment, hein? Vraiment. C'est ce que j'aime quand il y a à la fois, évidemment, le sens et la musique. Et les deux inséparablement. S'il n'y a que du sens, je m'ennuie. S'il n'y a que de la musique, si ce n'est que pure forme, je m'ennuie. Quand il arrive chez un auteur ou chez moi, que les deux s'embrassent et s'hybrident et résonnent l'un avec l'autre, je suis heureuse.
Et juste une petite question, lorsque vous avez écrit une page, est-ce que vous la testez à l'oral ?
Dans ma tête, toujours. Ah mais toujours. Je n'ai pas de gueuloir à la différence de Flaubert. Je ne le dis pas oralement, mais je l'entends dans ma tête, bien sûr. Bien sûr. Et il peut me manquer, pour que la musique soit juste, un mot à deux syllabes ne me convient pas, je le remplace aussitôt par un mot à trois syllabes. Vous voyez, je suis très très attentive à ça.
Alors, j'ai cru comprendre que vous aviez eu deux moments assez essentiels dans votre vie. Il y en a certainement plus que deux. Un premier moment qui est lié à ce que vous appelez la rencontre avec la folie.
Oui.
Et un deuxième moment où vous aviez déclaré que vous vous étiez donné l'autorisation d'écrire.
Oui.
Vous pourriez nous parler un petit peu de ces deux moments ?
Alors, la rencontre avec ce qu'on appelle la folie. Je fais des études de lettres, puis de médecine et de psychiatrie. Et le premier poste que je trouve, c'est un poste de médecin résident à la clinique La Lorane, à Bouc-Bélair, près de Marseille. Résident, ça veut dire que je dors sur place, que je prends mes repas avec les hospitalisés, que je regarde la télévision le soir avec les hospitalisés, que je fume des cigarettes avec les hospitalisés, que je vis avec eux. Et bien sûr, il y aurait quelque chose d'obscène à dire que ça a été un moment heureux, mais un moment important, parce que tout ce qui importe aux autres à l'extérieur, le succès, la richesse, les relations, etc. Quand vous êtes à la clinique La Lorane, on s'en fout. Ce qui compte, c'est une cigarette partagée, c'est un bonjour gentil, c'est un sourire, ce qu'on appelle les petits gestes, mais qui caressent l'âme et qui font du bien. Et ça a été pour moi un moment précieux, vraiment précieux, cette vie avec les psychotiques, mélancoliques, déprimés, etc. Parce que ce qui comptait pour eux était très loin d'être ce qui comptait au dehors où on s'entretue pour des histoires de pouvoir, de richesses et autres. D'accord. Et puis, surtout, je me dis que qui est fou ? Qui est fou ? Qui s'arroge le droit de dire que l'autre est fou ? Qui est le plus fou, Don Quichotte ou ceux qui le traitent de fou ? Voyez, ne sommes-nous pas tous un peu fous et insensés, etc., etc. C'est une question centrale, il me semble, celle-ci.
Et par rapport à la propension, enfin, au fait de se donner l'autorisation d'écrire, oui. Comment ça vient ?
Eh bien, vous savez, depuis le temps que je me pose cette question, je ne sais pas encore ce qui a fait qu'un jour je me donne cette autorisation. Vraiment, je ne sais pas. La nécessité, sans doute, d'avoir à, peut-être, à dire quelque chose de mes hontes d'enfance, de ma difficulté de lien avec le père. Peut-être cette urgence à trouver un lieu, un endroit où l'exprimer. Mais vous savez, je dis souvent, parce que j'ai mauvais esprit, que je vois des gens se donner l'autorisation d'écrire et qui feraient mieux de ne pas se la donner, et d'autres qui ne se la donnent jamais et chez qui on ressent pourtant quelque chose comme un talent dans l'expression écrite. Et voilà, c'est injuste, je trouve.
Donc, cette autorisation était une bonne chose lorsqu'elle est arrivée.
Ah, mais bien sûr. Ouais. Mais j'ai déjà 40 ans. Il m'a fallu tout ce temps-là pour que je me la donne. Elle m'intimidait.
Donc, la littérature vous intimidait. Néanmoins, vous avez entamé une jolie carrière. Et donc, notamment, même si sans doute ça ne fait pas tout, vous avez été reconnu à travers le Goncourt en 2014. Et je voulais vous demander, alors on vous a peut-être posé mille fois la question, c'est la première réaction lorsqu'on a le Goncourt. Et ensuite, la question qui vient derrière, c'est dire, comment fait-on pour vivre après le Goncourt ? Et en particulier, est-ce qu'il n'y a pas une interrogation de dire, maintenant, il faut que j'écrive le livre après le Goncourt ? Est-ce que là, il n'y a pas un obstacle, une difficulté, une peur ?
Alors, il se trouve, je l'ai déjà dit quelques fois, que je reçois en même temps le Goncourt et le diagnostic d'un cancer. Et très franchement, dans ma tête, ce qui importait, c'était de survivre, c'était de faire ma chimio. Et ça a l'air d'être là aussi une coquetterie, hein, de dire que le Goncourt n'a pas été... Ça m'a fait plaisir, évidemment. Mais ce qui importait à ce moment-là, c'était la santé. C'était de m'en sortir. Et d'une certaine façon, je crois que c'est, au fond, pas mal tombé avec le recul. D'abord parce que le Goncourt m'a probablement aidé à guérir peut-être presque autant que la chimio. Il fallait faire face, il fallait que j'accepte des entretiens, des choses comme ça, plutôt que de m'attendrir infiniment sur ma pauvre maladie, etc. Je pense que ça m'a aidé. En revanche, j'ai refusé toutes les invitations à l'international. Et ça, c'est peut-être un regret, mais j'étais pas assez en forme. Et puis, comme j'aime très peu voyager, au fond, ça m'arrangeait. Mais c'est un vague regret. C'est un vague regret.
Par rapport au livre d'après le Goncourt.
Oui, mais alors vous savez, c'est pour ça que j'ai travaillé jusqu'à la retraite. Je travaillais comme pédopsychiatre. J'avais donc un salaire. Et donc, pour moi, qu'un livre plaise à l'opinion ou pas, j'avais un salaire. Et ce qui m'a donné une liberté par rapport au choix de mes sujets extraordinaire. Je crois que si je n'avais pas eu cette assurance d'avoir une fin de mois assurée, je n'aurais pas écrit La puissance des mouches avec comme héros Blaise Pascal, qui est, quand on y pense, assez peu séduisant pour le grand public, vous voyez. Et donc, voilà, j'avais les arrières assurés, en quelque sorte, par mon métier de pédopsie, que j'aimais beaucoup par ailleurs, que j'ai adoré même. Et ce qui m'enlevait l'inquiétude, cette inquiétude qu'ont beaucoup d'écrivains, de se dire, mais si ça ne marche pas, de quoi je vais vivre ? Outre la renommée, etc., et la gloriole.
Donc ça a été finalement une garantie de,
oui,
votre, de liberté.
Absolument, oui, absolument. Contrairement à ce qu'on croit, ça me mangeait du temps, sans doute, puisque j'avais cette consultation, mais ça m'octroyait la liberté de choisir ce que bon me semblait et le sujet que bon me semblait sans tenir aucun compte, autant que je sache, peut-être un peu, mais de ce qui était censé caresser l'opinion dans le sens de son poil.
Alors, quand on regarde de près votre œuvre, vos différents livres, effectivement, on sent qu'il y a quand même une certaine liberté. Les thèmes que vous abordez sont liés aux aliénations contemporaines, à la mise en sourdine par les conventions sociales, l'imbrication des rapports dominants-dominés. Vous avez d'une certaine manière une prédilection pour des sujets qui ouvrent la discussion, et c'est un peu cette liberté qui vous permet de les aborder d'une part, et surtout de les aborder comme vous les abordez.
Bon, je l'ai dit rapidement, donc j'ai des parents étranger, espagnol, un père ouvrier, et donc une enfance, comment le dire, sans faire de pathos, mais où on est pauvre à la maison, voilà, pour le dire vite. Et c'est une chose avec laquelle je mourrais, c'est de me situer toujours, toujours, toujours du côté de ce que Baudelaire appelait les chiens crottés. Hein? Pas les chiens avec un par-dessus, toiletté, bien nourri. Jusqu'à ma mort, je serai du côté de ceux qui ont souffert, de ceux qui souffrent. Évidemment, sans pathos et sans lyrisme obscène, mais mon cœur va vers eux, voilà. Et si je peux leur donner la voix, je le fais.
Lydie Salvert, nous allons maintenant écouter un morceau de musique qui vous tient particulièrement,
oui,
à cœur, et dont nous révélerons le titre aux auditeurs après l'avoir écouté.
Ok, à tout à l'heure. Thank you.
parole d'auteur. Philippe Gilbert.
Je vous rappelle que nous sommes en compagnie de Lydie Salver qui est venue nous présenter son dernier ouvrage « Depuis toujours, nous aimons les dimanches ». Et je devrais préciser de manière plus exacte, c'est que c'est Lydie Salver qui nous a invités chez elle pour que nous puissions découvrir avec elle cet excellent ouvrage. Lydie Salver, pourriez-vous donner le titre de ce morceau à nos auditeurs ?
Alors, El Quinto Regimiento, c'est un morceau d'un disque de musique qui a pour titre Libération Musique Orchestra de Charlie Aden et qui reprend un désert chanté par les républicains espagnols pendant la guerre civile que ma mère chantait. Et donc, chaque fois que je l'entends, mais je suis prise d'une émotion qui me ferait presque pleurer. Et je dis que je veux être enterrée avec cette musique-là qui me touche tellement, qui est belle, qui est très belle. Et qui me renvoie à l'enfance et à ma mère et à toute cette histoire.
Cette année, vous avez reçu le prix Marguerite Yourcenar.
Oui.
Vous pourriez expliquer aux auditeurs en quoi consiste ce prix ?
Alors, c'est un prix qui est donné non pas à un livre, mais à une œuvre, à la totalité des livres. Et pour me faire valoir un petit peu quand même. Non, c'est un prix qui a été donné à Annie Ernaux, Pierre Michon, entre autres. Donc, voilà, un beau prix, je trouve. J'étais très heureuse et fière de le recevoir.
Alors, j'ai compris aussi que vous étiez très fière d'avoir reçu un autre prix que vous considérez comme étant votre premier prix littéraire en 1963 à Haute-Rive. Vous pourriez nous préciser dans quelle discipline ?
Lorsque je suis adolescente, dans le cinéma Rex de la petite ville où j'habite, est organisé un concours de twist. Et c'est un concours que j'ai gagné. J'ai été la lauréate numéro un de ce concours de twist. Et j'en ai conçu une fierté aussi grande ou presque que de recevoir le prix Goncourt. Je m'amuse, non, mais c'était un moment joyeux. C'était un moment joyeux.
C'est des choses qui oui, marquent.
Oui, 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 oui.
Alors, revenons à la littérature. J'ai trouvé une de vos déclarations au sujet de votre conception de la littérature que je vais lire aux auditeurs parce que je la trouve très jolie. Vous considérez la littérature non pas comme un enjolivement de la vie, ni comme une distinction accordée à quelques rares, mais comme une autre vision que celle offerte par les médias ou que celle de la publicité qui nous présente le monde réel comme le seul possible. C'est quelque chose de très profond que vous avez en vous.
Oui, mais que je retrouve à peu près dans les livres qui comptent. C'est précisément de dire sinon l'envers des choses, mais ce qui est tu généralement, ce qui n'est pas valorisé généralement, ce qui reste dans l'ombre, ce qui résiste aussi au discours majoritaire. C'est Deleuze qui dit que la littérature, c'est résister au discours majoritaire par une voix singulière et qui n'est pas la voix répétée à l'infini des médias.
Résister.
Oui.
C'est le maître mot, on pourrait dire, de la globalité de votre œuvre, mais pas exclusivement.
Sans doute, oui. C'est en tout cas une des belles choses de la littérature, de résister aux préjugés, de résister aux parler dominants, de résister aux désirs de servitude. Bref, c'est une belle chose de la littérature, mais aussi de dire la douceur et la beauté des choses, mais aussi de vanter la paresse, par exemple.
Nous allons y revenir. Vous êtes donc dans la résistance, et le livre dont nous allons parler enfin aujourd'hui, je le rappelle, depuis toujours nous aimons les dimanches. Pour le coup, c'est un sacré appel à la résistance. C'est une mobilisation.
En tout cas, c'est un livre que j'écris après la crise Covid, parce que je me rends compte, moi-même et autour de moi, qu'un certain nombre de personnes, pendant cette période où ils sont moins accaparés par le travail, se retournent sur leur vie et réfléchissent sur le travail. Est-ce que le travail m'épanouit? Est-ce qu'il me rend heureuse? Est-ce qu'il me laisse vivre? Est-ce qu'il est accordé à ce que je suis? Est-ce qu'il me laisse du temps pour faire autre chose, etc.? Il m'a semblé que la question du travail était très, très, revenait souvent, en tout cas j'y étais sensible, et du coup je me suis penchée à cette notion de travail pour découvrir qu'elle était une invention sociale, le travail tel qu'on le considère aujourd'hui, puisque jusqu'au milieu du 18e, début 19e, les activités sont là pour subvenir aux besoins. Avec l'industrialisation, on travaille non pas seulement pour subvenir aux besoins, mais pour en créer et en créer et en créer et en créer et pousser les consommateurs à consommer et consommer et consommer, ce qui va changer complètement le rapport, notre rapport au travail.
Donc voilà,
je pars de là.
Oui.
Et je me rends compte en me penchant sur tous ceux qui ont écrit à propos du travail qu'il y a d'une part les économistes et les classes aisées qui défendent la valeur travail à tout prix, ce que j'appelle les apologistes du travail des autres, et les poètes comme Baudelaire, comme Rimbaud, comme Victor Hugo, dire la douleur du travail et faire l'éloge de la paresse, et des philosophes tels que Russell, par exemple, qui a écrit un éloge de l'oisiveté, je crois, et qui, à l'époque, c'est 1830 et quelques, je crois, Russell, qui dit qu'on pourrait très bien vivre en travaillant, je crois qu'il avait dit à l'époque, 4 heures par jour, si le travail était justement reparti, la notion du travail échappait à l'idéologie. Hein, parce que c'est selon, en tout cas, certains philosophes et chercheurs qui ont travaillé sur le travail, on travaille davantage pour obéir à ceux qui le promeuvent comme une valeur travail que pour subvenir simplement aux besoins nécessaires. Je ne sais pas si je suis très claire là.
Si, parfaitement. Donc, vous commencez très fort ce livre dans une sorte de tirade qui est en quelque sorte... vous remettez les pendules à l'heure. Alors, je vais lire les phrases en question. « Depuis toujours, nous aimons nous réveiller sans l'horrible sonnerie du matin qui fait chuter nos rêves et les ampute à vif. Depuis toujours, nous aimons lanterner, buller, extravaguer dans un parfait insouci du temps. Depuis toujours, nous aimons faire niente, en deux mots, ou juste ce qui nous plaît, comme il nous plaît et quand cela nous plaît. » C'est-à-dire que le travail a été dénaturé et que s'il n'avait pas été dénaturé, le problème ne se poserait pas. Nous ferions ce qui nous plaît.
Alors bien sûr qu'il faudrait travailler pour subvenir aux besoins. Je ne suis pas utopiste au point de croire, en tout cas, qu'on pourrait s'en passer. Mais pour avoir vécu auprès d'un père maçon qui rentrait... recru de fatigue le soir, les bras douloureux, le dos douloureux, etc., qu'on ne vienne pas me parler de la valeur travail. Je la refuse. Et quand je discute avec les femmes de ménage de l'hôtel où je vais quand je vais à Paris, à la sortie de mes livres, et qu'elles me disent qu'elles partent à 5h30 du matin d'une banlieue, qu'elles prennent le métro, qu'elles commencent le travail à 7h pour le terminer à je ne sais quoi, reprendre le métro. Je ne peux pas admettre qu'on me dise que le travail est la réalisation de soi, l'épanouissement de l'être, etc., etc. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Et alors, la paresse dont je fais l'éloge, c'est pas seulement ne rien faire, comme je le dis à des moments, c'est faire tout ce qui est considéré comme inutile par notre société. Lire. Lire, qui est... que l'on ne peut faire que si on n'est pas attaché à un poste de travail, rêver, penser. Hein. J'ai adoré, enfant, voir les temps modernes avec Charlie Chaplin, qui montre à quel point le fordisme empêche toute activité de pensée, de rêve, d'imagination, etc. Voilà.
Alors, vous, sur ce livre, avec ce livre, il y a donc ce titre, « Depuis toujours, nous aimons les dimanches », et je voudrais signaler aux éditeurs qu'il est accompagné d'un bandeau qui reprend un slogan de Guy Debord, un slogan de mai 68, qui lui, bon, pour le coup, insiste lourdement, en rajoute un peu, « Ne travaillez jamais ».
Oui.
Cette contestation, cette remise en question du travail à laquelle vous participez, on peut considérer qu'elle est plutôt orientée sur le travail salarié et,
oui,
et sur la difficulté à supporter le lien de subordination qui en découle.
Entre autres, bien sûr. C'est Rimbaud le premier qui, dans une lettre à, j'oublie chaque fois son nom, son professeur, Isambard, dans l'une, il a 15 ans et demi, il a fait une fugue de Charleville, ville supérieurement idiote, dit-il, pour aller à Paris rallier la commune. Et il déclare à son professeur, travaillez jamais, je suis poète. Et Debord va reprendre ce travailler rimbaldien et l'écrire sur un mur de Paris. Le travail, encore une fois, tel qu'il est conçu aujourd'hui et tel que vous le décrivez, c'est-à-dire dans un rapport d'assuétude, de domination avec un management vertical, hein, décidé par des cadres qui sont bien au chaud dans leur bureau et qui décident soudain comment il faut faire, on doit faire, à quel rythme, etc., etc. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il est paru au Seuil, il y a un ou deux ans, je crois, un volume dédié au travail, 60 études menées par des chercheurs en sciences sociales qui tous disent qu'il y a des choses à apporter, à modifier, un management moins vertical, des décisions prises en commun, des semaines de 4 jours, une autre répartition du travail. Et c'est comme si ceux qui décident, ceux qui ont le pouvoir, étaient sourds à 60 chercheurs en sciences sociales, qui tous, Dominique Méda entre autres, qui tous disent il y a des façons, il y aurait d'autres façons de travailler que de travailler à ce rythme-là, jusqu'à pas d'heure, jusqu'à pas d'âge, etc., etc.
Alors nous allons y revenir, hein, sur ce sujet, sur cet aspect utopique, mais peut-être pas si utopique que ça. En attendant, j'aurais envie de vous proposer de revivre, peut-être.
Oui.
À tout de suite.
On voudrait revivre, mais ça veut dire on voudrait vivre encore. la même chose. Refaire peut-être encore le grand parcours, toucher du doigt le point de non-retour, et se sentir si loin, si loin de son enfance. En même temps qu'on a froid, qu'on pleure, quand même on pense que si le ciel nous laisse, on voudra n'est pas venu qu'on se repose. Il faut refaire encore ce que l'on aime, replonger dans le froid liquide des jours toujours les mêmes, et se sentir si loin, si loin de son enfance. En même temps qu'on a froid, qu'on pleure, quand même on pense qu'on n'a pas eu le temps de terminer le livre qu'on avait commencé hier en grandissant, le livre de la vie limpide et grimaçant, où l'on était son monde qui monte et qui descend, où l'on était son monde, le fleuve éclaboussant, où l'on est devenu anonyme passant, chevelu décoiffé, chevelu décoiffé, difforme se disant, on voudrait.
Parole d'auteur. Philippe Gilbert.
Nous sommes toujours en compagnie de Lydie Salvert qui nous reçoit à son domicile à Nîmes pour son roman « Depuis toujours, nous aimons les dimanches ». Lydie Salvert, on voudrait revivre. Qu'est-ce à dire ?
C'est une chanson, Revivre, de Gérard Manset, qui date de, oh là là, qui doit bien dater, je sais pas, d'une vingtaine, d'une trentaine d'années, que j'avais adoré quand je l'avais écouté la première fois, mais qui m'est encore plus chère aujourd'hui, parce que je vieillis. Je vieillis. Et l'idée du, mais d'une fin proche, il faut bien le dire, est présente à mon esprit. Et quand j'entends ce revivre, ça me parle comme jamais, comme jamais. Refaire toujours les mêmes gestes, même s'il y a de l'ennui à la vie, même s'il y a des moments mélancoliques, même si elle nous blesse parfois, mais revivre.
L'aspect routine quotidienne agréable
aussi,
rentre en ligne de compte aussi.
Bien sûr, oui. Bien sûr. Oui, ces gestes qui, dont on ne voit pas le prix parce qu'on les refait tous les jours, mais si on pense qu'ils vont disparaître, c'est terrible, ces petits gestes de la vie, ces petits riens dont on parlait tout à l'heure.
Ces petits riens qui font beaucoup de choses.
Oui, voilà. Exactement.
Alors, revenons à votre ouvrage. Naturellement, dans cet ouvrage, il y a un fond de remise en question du système, une opposition frontale, une argumentation que je qualifierais de béton, et vous êtes dans le style de la, du satire, discours, de la satire, de la harangue, de la rancune, et vous avez des formules qui résume bien votre état d'esprit. Moi, en lisant ce livre, j'ai vu Lydie Salver à la tribune, face à une foule motivée et prête à bondir. Alors, je cite pour nos auditeurs, on y reviendra peut-être un petit peu. La paresse est un art subtil. En parlant des ce que vous appelez les apologistes du travail des autres, vous dites qu'ils ont une bonne conscience en duvet de canard haut de gamme de patrons humanistes qui ne sont pas des brutes, éveillent à la bonne viabilité du matériel humain. Devinez à qui je pense. C'est le travail qui prématurément nous fane. Travaillez moins pour lire plus, naturellement. À un moment donné, il y a une phrase, une formule qui est très forte. Le travail ne nous définira plus. Est-ce qu'on pourrait s'arrêter un petit peu sur cette formule?
Oui. Peut-être d'abord, si vous le permettez, vous dire comment est né mon goût de la satire. Je vous ai donc dit qu'en 2014, j'ai un cancer. Je suis triste, j'ai des idées sombres, j'écris mon testament, etc. Et mon compagnon me fait lire un livre de Jonathan Swift, « Modeste proposition pour que les enfants de pauvres ne soient pas à la charge de leur famille ou de leur pays. » Et c'est une satire qui use comme arme du rire, mais comme je l'ai rarement vu, qui va droit aux choses. Et je me suis prise de passion pour tous les satiristes qui existaient en littérature. Et bon, Rabelais, qui était un satiriste à sa manière, Swift, bien sûr, les moralistes, la Bruyère, qui est d'un piquant, d'un tranchant extraordinaire. Et parce que je me rends compte que la satire dit parfois, en quelques mots, en quelques pages, ce que le roman dit en 100. Alors bien sûr, elle manque de subtilité, souvent. Souvent, elle est de mauvaise foi, elle pratique l'outrance. Mais moi, je lui trouve une séduction extraordinaire et elle est joyeuse. On dit la vérité la plus cruelle, mais joyeusement, parce que c'est la seule façon de ne pas en être puni. On est souvent puni de dire la vérité. Donc, alors pourquoi je vous parle de la satire? Oui, parce que je considère ce livre comme étant une satire à sa façon, une satire avec ce que ça a de joyeux, de politique, sans doute, de railleur aussi, de cruel aussi, etc.
Alors,
j'ai oublié votre question.
Non, mais je vais vous la rappeler. Vous dites que à partir de maintenant, le travail ne nous définira plus, c'est-à-dire qu'on ne se positionnera pas plus par rapport à son travail, qui induit aussi sa position sociale.
Mais exactement. Moi, je suis désolée quand j'entends demander « Que faites-vous dans la vie ?» On dit « Je suis plombier, boulanger ou je ne sais quoi ». Et aussitôt, l'autre réagit en fonction de son étiquette sociale, qui le situe sur l'échelle, etc. Or, on est écrivain, on est boulanger, on est journaliste, mais on est aussi rêveur, mais on est aussi, je ne sais quoi, jardinier à 16 heures, mais on aime aussi les fleurs. Mais voyez, on est mille choses à la fois. On n'est pas qu'une étiquette. Et ça me désole quand on nous résume à une étiquette sociale. On a mille autres voix.
Et donc dans la formule, effectivement, mille choses dont certaines d'une inutilité totale et aucune qui nous ne tienne en laisse.
Oui, oui, oui. Donc, voilà, toutes ces activités que l'on a plaisir à faire parce que précisément, personne ne nous oblige à les faire. Et on entend souvent les gens dire leur plaisir à jardiner, leur plaisir à bricoler, leur plaisir à marcher, leur plaisir à lire, etc. Voilà, toutes ces choses dont on décide et s'en laisse autour du cou, évidemment. Alors, c'est facile à dire, hein, mais plus facile qu'à faire.
Alors, voilà, justement, sur ce registre-là, on dit, bon, ben, Lydie Salver nous fait un joli discours, un discours oui. percutant, un discours satirique et donc un discours qui à la fois nous fait réfléchir et peut nous faire sourire. Et puis on s'aperçoit que quand Lydie Salver parle d'une semaine de 20 heures, fait référence à certains démarrages d'utopie, on se dit oui, au fond, elle a raison, mais comment fait-on ? Comment fait-on ? Est-ce que nous ne sommes pas un petit peu paralysés par le système ? Est-ce que, à l'heure actuelle, quand on entend des voix qui disent c'est travailler plus ?
Oui.
Et pas lire plus. Oui. Alors, comment on peut réagir par rapport à ça ?
Alors, évidemment, hein, je n'ai pas la prétention d'apporter des solutions. J'en serais bien, bien incapable. Et je t'ai juste des amorces pour qu'ensemble ou séparément, on réfléchisse à cette chose. Je suis d'ailleurs pas la seule à poser la question du travail et comment l'améliorer, comment le rendre humain et comment ne pas perdre notre vie à la gagner, pour reprendre une phrase qu'on a beaucoup, beaucoup entendue. Alors évidemment, pour moi, c'est facile puisque je travaille quand je veux, au rythme que je veux et sans que personne soit derrière moi, et je mesure tout à fait que c'est un privilège. Je le mesure vraiment tout à fait. Alors, que faire si déjà les uns et les autres se posent la question ? J'ai l'impression, par exemple, que les jeunes générations, au cours des quelques rencontres que j'ai faites avec des publics, les jeunes gens se posent cette question. De la validité du travail. Est-ce que je vais faire comme mon père, travailler tous les jours de la semaine et respirer juste un peu le dimanche? J'ai l'impression que c'était présent dans les esprits des jeunes générations, ou je me trompe?
Alors, je réponds à votre question parce que c'est très intéressant. Moi, j'ai moi-même un fils qui a presque la quarantaine. Et ce qu'ils disent entre eux, c'est ils ne sont pas tellement dans la remise en question du système, mais dans une posture d'adaptabilité.
Oui.
Et qui dit adaptabilité dit finalement un certain retrait. Oui. Et ce certain retrait, c'est une partie du retrait que vous décrivez dans votre livre.
Bien sûr. Oui, hein, j'ai l'impression qu'il y a ce désir de ne pas être mangé en totalité par une vie au travail. En tout cas, c'est ce que j'ai cru percevoir. Oui, encore une fois, hein, moi je ne suis pas celle qui a la prétention de dire ce qu'il faut faire, mais il y a des pistes qui sont tracées par les uns et les autres.
En quelque sorte, ce livre est une sorte d'alerte, de mobilisation, oui. De rappel, peut-être.
Oui, c'est pour secouer, c'est pour interroger, c'est pour questionner, c'est pour déranger. Il me semble que c'est une des belles vocations de la littérature que de déranger. Et je cite souvent cette phrase de Baudelaire qui parle du plaisir de déplaire. Le plaisir de déplaire. Plutôt que de, à toute force, obtenir les faveurs du grand public qui veut de l'amour, de la romance et des livres qui finissent bien, ils s'émerrent jusqu'à la fin des jours, etc., etc.
Lydie Salver, merci beaucoup de nous avoir fait, de nous avoir donné l'envie, parce que je crois que sur ce plan-là, c'est l'objectif est atteint, de lire votre livre « Depuis toujours, nous aimons les dimanches ». Alors, lorsqu'on a écrit un livre de ce type, à la fois provocateur et effectivement très satirique, quels sont les projets qui suivent?
Alors, est-ce que je l'avoue? Non. On m'a demandé de faire un autoportrait, ce qui est un exercice assez casse-gueule. Hein, parce que il faut faire un trajet de funambule entre la complaisance sur soi, qui est un risque majeur. C'est compliqué. Je ne sais pas. Je l'ai à l'esprit. J'y pense.
Nous attendrons patiemment.
Merci infiniment.
Merci beaucoup. Mille fois, Lydie Salver. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent réagir à notre émission sur le site de Radio Présence et que cette émission sera disponible sur toutes les plateformes numériques en podcast. Merci encore une fois.
Merci à vous. Merci.
Et bonne lecture à tous nos auditeurs. Au revoir.
Au revoir.